Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ? Bienvenue dans cette troisième et par pitié dernière réunion sur les films d'ici, franchement je n'en peux plus. Mathieu, Déborah, je compte sur vous pour qu'on boucle cette réunion sans fin aujourd'hui, obligation. Alors ok, on a passé 2 heures sur seulement 6 films en parlant de Man of Steel, Batman v Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League et Aquaman, et ok il en reste une dizaine, mais on a passé le plus dur je pense. Là il reste La Chute, La Descente aux Enfers, la dernière ligne droite infernale, qui a culminé avec une année 2023 absolument désastreuse qui restera dans les mémoires grâce à Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2. C'est ça la fin du DCU lancé en 2013 avec Man of Steel puis Batman v Superman, une triste fin pour un projet dantesque qui devait rivaliser avec le MCU de Marvel et qui s'est transformé en cauchemar pour à peu près tout le monde, autant pour les équipes artistiques que le public. Mais si on reprend, le premier film sorti après tout ce bordel, c'est donc Shazam en 2019. Alors perso, je trouve que c'est un des pires du DCU, je sais que vous le détestez pas, non ?
Moi je déteste vraiment pas film. Bah, déjà je me l'étais refait pour la sortie de Shazam 2, donc forcément si on joue le jeu des comparaisons, le premier Shazam est gagnant. Et justement, le fait d'amener ce côté un petit peu plus léger et porté sur l'humour, vu que ça n'avait pas été fait de masse dans le DCU, ça ne me dérangeait pas trop. Et surtout, encore une fois, moi je trouve l'histoire de Billy Batson vraiment déchirante. Et il y avait encore.
Déchirante, quand même.
Ouais, vraiment, la scène où il retrouve sa mère, je trouve cette scène déchirante. Je trouve qu'elle est super bien écrite, que les dialogues fonctionnent bien et tout. Il y a une espèce de simplicité dans la mise en scène, de chant contre chant. Vraiment, j'aime
beaucoup. Mais sur une échelle de la maman du petit dinosaure, c'est où?
C'est imbattable, le petit dinosaure. Du coup, non, je trouvais qu'il y avait. En fait, un équilibre. Voilà, le film réussissait à trouver un équilibre entre on a un héros qui est un adolescent du coup qui est un petit peu teubé et tout ça, et derrière un fond quand même on laisse un peu place à l'émotion. Là, c'est ce que je reprochais plus au deuxième film. Voilà, je trouve qu'il y a un bon équilibre dans le film. Il est pas extraordinaire, mais je l'aime bien. J'ai envie de le défendre.
Et toi, Mathieu?
Je pense que c'est typiquement le genre de film que tu caractérises en disant je le déteste pas. Genre, mais... tu le détestes pas, mais tu l'aimes pas non plus quoi. Enfin, c'est-à-dire que. Oui, c'est pas trop mal fait. Comme Antoine, j'ai aussi, j'avoue, une petite, un petit point sensible pour David F. Sandberg, qui vient de YouTube, du court-métrage, et qui a réussi quand même à vraiment...
De l'horreur.
Voilà, il a grimpé les échelons.
Oui, la success story ultime.
Il est très sincère sur les réseaux, tu vois, dans ce qu'il fait, etc.
Et ça s'est tellement bien fini pour lui en plus.
Ouais. Non, mais je trouve que, pour le coup, sa sincérité à lui, pardon, transparaît vachement dans le film. Ce qu'il a lui par rapport à tous les autres qui vont sortir par la suite, c'est qu'il a pas de cynisme en fait. Là où tout ce qu'on va avoir par la suite, c'est vraiment cynique. Là où Shazam 2 est un monument de cynisme avec son placement de produit absolument scandaleux, tu vois, des trucs comme ça. Là, on n'est pas dans ce niveau de cynisme qui va étreindre d'ici. Et j'ai l'impression que c'est un peu la caractéristique des films d'ici de ce moment-là, avec Birds of Prey que moi j'aime plutôt bien, et Wonder Woman 84 qui je trouve est tout pourri, mais qui je trouve est moins cynique que ce qu'il y a par la suite. Cette partie-là, je trouve, c'est des films qui sont pas terribles, parfois regardables, mais qui se foutent pas ouvertement de ta gueule. Tu sens que les mecs sont encore en mode on est en damage control, mais on peut encore s'en sortir. Du coup, il continue à laisser les gens plus ou moins aux rênes, etc. C'est après qu'ils vont dire on prend les rênes sur tout, on met des placements de produits partout, on fait n'importe quoi. Donc voilà.
Oui, non, juste pour rebondir un petit peu sur Birds of Prey, moi j'aime peut-être pas beaucoup, j'allais dire beaucoup, mais peut-être pas, mais j'aime bien ce film, parce que déjà je trouve que c'est une chouette proposition de cinéma et que ça faisait un moment quand même dans le DCU qu'on n'en avait pas eu, parce que désolé pour vous, mais je trouve pas Aquaman. Renversant sur ce côté-là. Enfin, moi, le côté ciné-génie, je l'ai beaucoup plus su dans Birds of Prey. En plus, bon, bah voilà, Margot Robbie.
Il
n'y
a pas de pieuvre qui joue du tambour et il n'y a pas de poupe géant. Hein, donc,
non, il y a Margot Robbie qui tire des paillettes. J'adore.
J'avoue.
Donc voilà, il y avait cette proposition que je trouvais vraiment, vraiment fraîche.
Fraîche.
Ouais, non, mais c'est vrai. Genre, vraiment, ça fait vraiment genre argument commercial nullissime, mais je trouve ce film frais.
Écran large, c'est en quote. Deborah Lechner, écran large. Je ne cautionne pas.
Il est revivifiant.
Pour retracer, puisqu'on parle de Shazam 2019, en 2020, il y a Birds of Prey. La même année que Birds of Prey, il y a Wonder Woman 1984. En 2021, The Suicide Squad. 2022, Black Adam. En 2023, donc le carambolage qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a à sauver là-dedans puisque...
The Suicide Squad.
Alors, déjà, si on prend dans l'ordre, lesquels ont marché, parce que... Avant d'arriver au carnage de certains films, Shazam, à l'époque, en 2019, a à peu près marché. Il avait coûté relativement peu cher. C'était aussi le début d'une ère où ils essayaient, avec Birds of Prey, de limiter un peu les coûts. C'était des films qui coûtaient 100 millions max, il me semble. C'est ça, non ?
En fait, si tu regardes là toute la liste, Shazam, ça fait partie des derniers succès, entre guillemets, du DCU.
Ce qui en dit beaucoup, quand même.
Voilà, ça remonte, quand même.
Parce que pour 100 millions de budget, 376 millions box-office, ce qui est pas ouf, ce qui est OK, parce que le film a coûté peu cher. Et c'est pour ça que je le trouve aussi nul, c'est qu'en fait, pour moi, il n'y a rien, c'est pas généreux, c'est chiant. Et
généreux sur le cœur.
Bien sûr.
J'ai décidé de balancer les trucs les plus niais aujourd'hui.
Et en 2020, on arrive pour le coup à... Un des premiers gros flops de cette dernière page de DC, c'est Birds of Prey qui a coûté pareil dans les 100 millions. Donc là, on sent encore une fois qu'ils essayent de...
C'était pas en dessous encore ?
Je crois qu'après, ils ont dit plutôt vers les 100.
Au début, c'était un peu dans du 100. Aussi,
okay, donc, au début, ils étaient plus sur les 100 du 80 millions et après, ils ont goûté.
Tu vois, comparé à les films qui ont coûté plus dans les 200, 250, 300, là, ils se disent en fait, soyons malins, comme... À l'époque, Marvel faisait aussi des films qui coûtaient un peu moins cher, c'est-à-dire plutôt dans les 100-150, et des films qui coûtent à peu près 300 millions. Mais Birds of Prey a fait dans les 200 millions box-office, donc là...
Ah, d'un côté, on pourrait dire qu'il y a la pandémie, il est sorti juste au début de la pandémie, donc forcément, ça a fauché sa carrière. Après, je pense aussi que le film n'a pas tellement su comment se vendre. Je ne sais pas vraiment si les gens savaient ce qu'ils allaient voir en prenant un ticket pour Birds of Prey. Bah, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que quelques temps après la sortie aux États-Unis, le film a changé de titre.
Ils ont complètement rétro-pédalé.
Ouais, voilà, ça. C'était plus Birds of Prey, machin, Harley Quinn. C'était Harley Quinn.
Histoire de Harley Quinn.
Deux points. Voilà.
Bah, c'est vrai qu'après, tu peux te demander. Moi, je trouve que le film est pas trop mal et qu'il y a des trucs. Je trouve que c'est beaucoup mieux que Shazam et que c'est parmi les films que je déteste le moins du DCU. Et néanmoins, à l'époque. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule de dire on voit un film avec une bande de super-héroïnes dont tu connais que l'héroïne principale et les autres tu les connais pas, sachant que leur problème dans cet univers d'ici c'était déjà de gérer des nouveaux personnages des Suicide Squad, on est tous d'accord pour dire qu'ils arrivaient pas dans Justice League, le nouveau qui arrive ils savent pas le gérer, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils rajoutent des personnages dans un univers qui est déjà un peu le bordel.
Ouais, surtout qu'en plus de base ils devaient partir, enfin ils avaient pour idée de faire les sirènes de Gotham, donc avec Catwoman et Poison Ivy, donc ils sont quand même deux des anti-héroïnes les plus
Catwoman, quoi. C'est l'évidence quand même.
Et c'est Margot Robbie en fait qui s'est dit bah ouais, mais vu que j'ai un personnage fort qui est Harley Quinn et que ça peut ramener du monde en salle, ce serait peut-être l'occasion de mettre sur le devant d'autres super-héroïnes ou anti-héroïnes qui sont beaucoup moins connues, style Black Canary et tout ça.
Quelle grande idée.
Ok, d'accord, c'était peut-être pas la
Margot
meilleure.
Margot Robbie a eu le nez creux sur pas mal de projets comme productrice, mais pas celui-là. Quoi.
Voilà, elle a initié le truc et tout, c'est grand bien, mais c'est clair que c'est peut-être pas la meilleure décision. Après, bon, moi je veux voir une Poison Ivy au bout d'un moment au cinéma parce qu'on en a pas assez, à part Uma Thurman dans Les Schumacher, mais on va pas en reparler. Catwoman, peut-être que ça aurait été un petit peu tôt, je sais pas, par rapport à.
Ouais, je sais pas, en même temps, elle est tellement populaire que j'aurais trouvé que ça aurait été logique, quoi. Peut-être que ça aurait été kamikaze aussi.
Peut-être
mais...
que ça aurait été trop kamikaze de mettre Harley Quinn avec une Catwoman, que là ça aurait été peut-être trop... je sais pas, mais oui, c'était peut-être pas le choix le plus intelligent de prendre des super-héroïnes inconnues au bataillon, ou presque.
À l'origine, il devait y avoir Batgirl hein, dedans, il devait l'introduire dans ce film-là. Ah,
Cassandra Cain, du coup, c'est resté Cassandra Cain et pas.
Ils l'ont viré parce qu'il devait faire un film solo sur elle, par la même scénariste.
Non, mais j'aimerais tellement assister. J'aurais adoré assister aux réunions où ces trucs-là sont décidés, où quelqu'un dit en fait, ce personnage peut plus être dans le film, pourquoi ? Parce qu'elle doit être dans un autre film. Et trois ans après, tu rappelles que ce film, il est jeté à la poubelle et tout. C'est tellement le bordel, quoi.
Oui, parce que du coup, ouais, ils devaient prendre Batgirl parce qu'ils n'avaient pas Batwoman, parce qu'il y avait déjà le projet, je crois, de série télé Batwoman.
Avec Ruby Rose à l'époque, là.
Ouais, oui, je ne sais pas encore si c'était Ruby Rose qui avait déjà été castée, mais il y avait déjà
c'est
ce problème.
C'est très bien fini. Là encore, une très belle histoire où les gens se sont quittés en très bon terme.
Oui.
Ah, mais quel bordel. Et après, on arrive donc... Alors là, c'est peut-être... Comme Aquaman 2, le premier retour de flamme absolument ahurissant, même s'il y a l'effet pandémie qui est évidemment très fort, c'est Wonder Woman 1984. Donc la suite de leur énorme succès qui arrive pour le coup assez vite après le premier. On reprend la même réalisatrice, la même actrice, on reprend même putain de Chris Pine alors qu'il est mort, pour vous dire à quel point on essaie quand même de tirer sur la corde. Et le film arrive en pleine pandémie, donc juste après Tenet, au moment où Warner se dit qu'est-ce qu'on fait avec nos films. Il sort Tenet au cinéma, ça marche pas vraiment à la hauteur de ce qu'il voulait et Christopher Nolan n'a pas sauvé le cinéma comme il l'aurait voulu fin 2020. Donc ils le sortent. Comment définir cette sortie ? Au cinéma aux États-Unis, en France, je me souviens très bien que on a appris qu'il sortait en VOD, en catimini, c'était vraiment genre le truc était disponible en téléchargement illégal depuis décembre. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde en chaîne faïence, qui va en parler ? Puisqu'on ne peut pas le voir de manière légale. Warner ne disait pas quand est-ce qu'il sortait. Et à un moment, il est sorti en VOD, je crois genre en avril ou un truc comme ça.
Mais cette période était dingue. Je me rappelle, c'est aussi le moment où ils ont droppé Godzilla vs Kong oui. de nulle part en VOD en France. Mais mec, un kaiju mecha. Et alors qu'il sortait en salle aux États-Unis. Ouais. Et leur stratégie aux États-Unis déjà c'était questionnable, mais alors en France c'était n'importe quoi.
Oh bah c'était le chaos, je pense que là pour le coup aucun studio savait trop quoi faire, ouais, à part regarder les films sous le coude pendant
des
années.
C'est ceux qui se sont moins bien sortis pour le coup.
Bah après ils ont tenté, pour le coup ils ont tenté plus vite que les autres, donc on peut au moins leur reconnaître ça. Ils ont tenté et c'est comme ça qu'ils ont perdu Christopher Nolan en disant bah fuck, moi en fait si vous sortez mon film comme ceux des autres en VOD sur votre plateforme de merde, bah je me casse. Et il a dit... les réalisateurs qui bossaient comme moi pour Warner se sont endormis en bossant pour le plus grand studio d'Hollywood et se sont réveillés en bossant pour la pire plateforme de SVOD du monde. Et en fait, du jour au lendemain, sans vraiment communiquer avec les réals, visiblement, ils ont changé les stratégies. Toujours est-il que Wonder Woman 2, qui s'appelle donc Wonder Woman 1984, a coûté plus de 200 millions, donc un très gros budget aussi. Et au final, elle a fait 170 au box-office parce que sa sortie n'a pas vraiment lieu, quoi.
Mais même si encore une fois... Il n'y a pas que la sortie, il y a aussi le film en lui-même qui était déjà difficile avant.
Je n'ai pas tout mis là-dessus, j'ai parlé du business. Mais c'est sûr que le film s'est pris un énorme retour de flamme. Est-ce que c'était en retour de l'espèce de... je sais pas, de couronnement du premier qui est quand même un peu ahurissant. En fait, moi, je trouve que très simplement, le premier a été suraimé et le deuxième a été surdétesté. En fait, entre les deux, il y a un truc à peu près normal. Aucun des films n'est génial, aucun des films n'est honteux pour moi. Je trouve que les deux, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on s'en est pris plein dans la gueule pour l'avoir à peu près défendu entre énormes guillemets à l'époque. Mais pour moi, le premier et le deuxième se valent à peu près pour des raisons très différentes, mais je vois pas un gouffre entre les deux, vraiment.
Oh bah, je suis d'accord, je trouve ça indigent. Mais...
technique, moi ce serait plus vraiment, je trouve la technique, les effets spéciaux vraiment plus dégueulasses sur le deuxième.
Tu n'aimes pas l'espèce de course dégueulasse en plein milieu du désert là ?
Oh mon dieu, avec elle qui vole là. Déjà la bande annonce où elle s'accroche aux éclairs comme ça pour faire Tarzan. Je t'en demande, mais c'est quoi ?
Mais ça passe encore parce que c'est dans l'arsenal un peu kitsch Wonder Woman. Mais alors Cheetah, oh my god. Non,
Cheetah par contre, c'est sûr que c'est. Mais Cheetah, si. Je sais pas quel monstre ça a foiré, parce que l'idée de ce personnage est pas mal, mais elle est très mal utilisée, très mal écrite. Kristen Wiig, c'est une bonne actrice, donc qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit réduit à un second couteau comme ça ?
Mais c'est tellement en plus ringard dans la façon de faire. On te dit, voilà, la meuf, elle a les cheveux bouclés, elle a des lunettes, du coup, bah, elle est pas très jolie.
Moi, ça me fait rire, ça. Moi, c'est le côté kitsch, genre post-teen movie des années 80, que je trouve trop drôle.
Là, mais c'est ça qui me fait rire.
Mais je trouve que ça va avec la niaiserie que je trouve un petit peu, la candeur, que je dirais, moi. De ce truc des souhaits, de la lampe magique. Je trouve qu'il y a un truc un petit peu touchant dans cet arsenal justement du conte de fées.
Bah moi j'aime bien le film parce que du coup je le trouve un peu moins niais que le premier. Ouais, alors il y a les...
bah attends, t'as vu comment elle arrête le méchant à la fin?
Je sais, il y a la pierre qui exauce les vœux et tout, mais je trouvais que dans le premier Wonder Woman, en fait Wonder Woman, il y avait quasiment aucun obstacle devant elle, ou alors elle est défoncée super facilement. Là on voit une Wonder Woman qui souffre physiquement, psychologiquement et tout ça, donc même si les curseurs sont pas poussés au max, c'était, je trouve, une façon de challenger le personnage qui est surpuissant, que je trouvais quand même vachement plus intéressant que dans le deuxième.
Moi, je suis d'accord sur le côté perdre ses pouvoirs. Qu'est-ce que tu sacrifies pour garder ce que tu es ?
Tu la vois physiquement. Bon, ok, d'accord, c'est un petit accro.
Gal Gadot légèrement démaquillé.
Excusez-moi, vous voyez pas là, il y a un éléphant au milieu de la pièce qui est que ça dure 2h30, putain, on se fait trop chier. Il y a 3 scènes d'action, il faut que parler, c'est chiant à
crever. Mais on aime bien les gens qui parlent, nous, Mathieu. Hein,
ah ouais, non, mais là.
Il y a la scène relooking de Chris Pine, je suis désolé.
Ah oui, c'est un mode Pretty Woman, non, c'est pas ça ? Ah, mais tuez-moi tout de suite, s'il vous plaît.
Et le fait qu'elle utilise le corps d'un homme, victime malgré lui, qui devient Chris Pine, et du coup, elle a une relation avec un mec.
Genre, elle viole un homme comme ça. Le scénario, son contre-fou, et à la fin, il part, et t'es en mode, mais cet homme a vécu des choses.
C'est un peu absurde, mais bon. Il y a pas de musique de Sunshine aussi reprise dans ce film,
quand t'es
dans
le ciel. Il pille John Murphy, comme dans une vulgaire pub de parfum de merde. Non, mais. Allez,
non, mais il y a quelques défauts. Mais je trouve ça beaucoup plus divertissant que Shazam 1, pour en revenir à une merde, par exemple.
Ah ouais.
Ouais.
C'est parce que, en fait, je pense que vous avez dormi pendant tous les moments où il parle dans Wonder Woman 2. Du coup, vous êtes dit, hey, c'est assez ramassé, c'est plutôt sympa. Alors que moi, qui n'ai pas dormi, je peux vous dire que c'est 4 fois plus chiant que n'importe quoi qu'ils ont produit.
Non, je pense que le... Vraiment, là, pour le coup, je pense que l'accueil désastre du film et le fait qu'il était détesté, je me suis dit en voyant le film, mais il est nul, enfin, il est nul moyen comme plein d'autres. Je comprends pas la surenchère contre le film en réponse à celle contre le premier film et le fait que c'est une meuf. Et du coup, tout ce qui était bien dans le premier, c'était Zack Snyder. Et tout ce qui était bien dans le film de Zack Snyder à l'époque, on disait que c'était Christopher Nolan. Donc ça, c'est quand même assez hilarant. Je trouvais que c'était quand même assez puant la manière dont le film a été accueilli. Hein.
Ouais, attention, remarque woke. Mais je pense que comme The Marvels, il y a eu un contre-coup post-MeToo. Ambiant qui a arrangé beaucoup de gens qui étaient très contents de pouvoir défoncer la suite du film qui représentait l'empowerment féminin à une certaine période, et ils y sont donnés à cœur joie. Et du coup, on le voit en direct souvent. Et c'est sûr que ça a joué, je pense.
Oui. J'avais aussi un peu envie de dire ça pour Birds of Prey, pas tout de suite mettre le sexisme et la misogynie sur l'échec du film, mais dès le départ, il y avait quand même des réactions qui étaient un petit peu. Sur la défensive, donc c'est pas pourquoi il y a un film avec des super-héroïnes, tout de suite il faut l'attaquer. J'avoue, j'avais pas trop compris ça.
Oui, ça fait partie du paysage maintenant d'écran large, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que proportionnellement au budget Wonder Woman et par rapport au premier film Wonder Woman, ça a été absolument hallucinant. Et en fait, c'est un peu comme si ça redonnait la preuve que Wonder Woman 1 était l'exception et que la norme c'était que ces films soient de la merde et que les gens les aiment pas, et que c'est la preuve que les mecs de Sony avaient raison. Catwoman, Elektra et Wonder Woman 2, le premier c'est une exception qui confirme la règle. Donc ça, c'est sûr que c'est pas pour ça que je déteste pas le film, parce que honnêtement, le film, je l'ai pas détesté, mais c'est sûr que dans l'équation, comme on parle de l'impact culturel de ces trucs et comment ils sont reçus, c'est sûr que ça a joué. Les commentaires sur Birds of Prey, c'était un enfer à gérer, parce que les gens, certaines personnes, pétaient un câble dès qu'on en parlait et quand on a osé lui mettre 3 sur 5. C'était pas possible, ça.
C'est vrai que cette critique, elle a soulevé de la haine comme peu avant elle, alors qu'on a mis 3 sur 5 en disant que c'était sympatoche sans plus. Enfin, je veux dire, c'est la critique la plus inoffensive du monde, quoi. Vraiment, on a été...
Ouais, mais comme pourtant, dans la critique, on parlait de la mise en scène de certaines scènes, de trucs qui étaient bien foutus, tu vois. C'était pas juste le film, c'est des meufs, et du coup, c'est bien.
Ouais, je pense la scène du commissariat, franchement, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle fait partie des plus cool.
C'est
fin...
beaucoup mieux mis en scène que la norme, en fait, de la soupe de super-héros.
Toutes
où tu
les
sais
scènes
pas qui
réalisées par Chad Selassky, quoi.
Ouais, ça, est-ce qu'on est sûr que c'est lui qui les a faites tout à l'heure?
Oh, il y a pas plus de reporter. Il y a un des producteurs qui en a parlé et qui a dit que la presse en faisait ses choux gras, mais que en gros ils ont surtout bossé avec l'Even at Seven, c'est la boîte de cascade que préside Staleski. Et Staleski, réalisateur de John Wick, hein, au cas où quelqu'un en dehors de la salle nous entendrait. En gros, c'est les mêmes personnes qui ont fait les scènes d'action. Juste, en fait, ils ont vu le film, ils se sont dit que ce serait bien s'il y aurait plus d'action dedans, si on pouvait pousser ce côté-là. Mmh. Et du coup, ils ont demandé aux mêmes gens qui faisaient l'action, parce que paraît-il qu'elle était déjà très bien, d'en faire plus. Et pour coordonner ça, ils ont engagé Staleski. Après, bon, c'est un producteur qui dit ça, mais je pense que c'est pas difficile de voir les mecs. Voir le film, se dire pas certain que ça fonctionne. Par contre, en ce moment, John Wick ça cartonne, l'action un peu chorégraphiée comme ça cartonne. Pourquoi on ferait pas une feature qui pourrait faire que le film se démarque? Et en toute sincérité, moi je trouve que c'est ce qui fait que le film se démarque. Il y a des scènes d'action très cool quand elle lui pète les deux jambes là.
c'est marrant quand même. Très drôle.
Voilà, c'est un peu plus méchant. Enfin, c'était déjà beaucoup plus méchant que Suicide Squad, alors que ça se la joue moins Dark Sasuke justement, comme on disait.
Mais ce qui est fou, c'est que du coup, c'est parce qu'on met pas tout sur le dos de Cathy Yan, la réalisatrice qui comme dans les bons ou mauvais films, ça reste une réalisatrice qui est à la solde d'un studio. C'est juste que le film a été, d'un point de vue production, bien géré. Pourquoi ces trucs de prenons des réals de seconde équipe ou pour les reshoots qui savent gérer, pourquoi ils l'ont pas fait sur tous les autres? Parce que dans les autres, tu ne retrouves pas cette efficacité et ce minimum de savoir-faire dans les chorégraphies, dans le découpage. Je me souviens vraiment la scène où à la fin tout le monde se bastonne et que ça tourne avec une espèce de cirque ou je sais pas trop quoi, ce décor en intérieur. Tu sens une espèce de un peu de vélocité. Il y a les échanges d'énergie et tout ça, quoi. C'est pas cuté toutes les deux secondes.
C'est pas une bagarre de parking.
Exactement.
Ah, ça faisait
la
du
DA
bien,
du
ça,
film
ça,
est assez cool, quoi. La photo est bien.
Il
y a de la fumée colorée,
il y a des paillettes et tout, moi j'adore.
Quand tu dis ça, on se dirait qu'on est en train de réinventer la... En fait, c'est juste le béaba, mais plein d'autres films en manquent, donc forcément celui-là est sorti du lot grâce à la nullité des autres. Et après, on arrive à votre chouchou sur lequel vous avez pété un câble en août 2021, The Suicide Squad, réalisé et écrit par votre dieu James Gunn.
Non,
peut-être pas.
Soyons honnêtes, franchement, je suis avec vous au bureau tous les jours. et qui donc a été un énorme bide, qui a coûté dans les 185 millions, donc un très joli budget, et qui a fait 170 millions au box-office, une part de payer la stratégie de SVOD de sortie simultanée au cinéma et sur HBO Max. Ça n'explique pas tout, mais ça explique largement le bide du film.
Beaucoup de gens voulaient le voir sans forcément payer. Je crois qu'il était parmi les films les plus piratés l'année de sa sortie, et c'est typiquement le genre de film que les gens piratent, en fait. Voilà. Après,
achète-toi comme tu veux.
Il y a de grandes chances que le film n'ait pas fonctionné s'il est sorti dans des conditions
normales. C'est sûr que là, ça n'a pas dû aider qu'il se crache à ce point-là. C'est certain que...
Mais on en revient du coup à la panique générale de chez Warner, parce que ce film, c'est quand même l'aboutissement d'un processus de « on trouve une suite à un de nos plus gros succès », qui est un pédalage dans la semoule absolument dantesque, et qui montre bien qu'à ce moment-là, même s'ils ont l'air d'être plus ou moins en mode on est en damage control, ils sont en totale panique, parce que du coup, après le premier Suicide Squad, il y avait des idées de spin-off, de suite, etc. Évidemment, l'idée d'une suite a été prioritaire. Ils ont courtisé quand même Mel Gibson, qui ne l'a pas fait finalement. Ils réfléchissaient à... Alors ça, je trouve ça ironique. Ils réfléchissaient à Ruben Fleischer et Daniel Espinosa. Donc les mecs qui vont faire Venom et Morbius. Donc autant dire qu'ils ont typé les grands talents de films de super-héros de demain.
Un bordel, quoi.
Voilà, ensuite, pas l'esquiver, quoi.
Encore plus ironique, celui qui devait le faire, c'était Jaume Colessera, donc
qui a fait Black Adam. Ah, c'est génial, quoi.
Oui. Mais qui a fini par se barrer après un énième décalage parce qu'il voulait faire Jungle Cruise et préférait faire un film
bien
original, je mets des guillemets, plutôt que de faire une suite. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Dwayne Johnson allait être le méchant de Suicide Squad 2 en Black Adam, ce qui aurait été plutôt logique finalement, tu vois. Mais ça a encore été décalé plusieurs fois, notamment à cause de Aladdin et Jimmy Man qui ont décalé l'emploi du temps de Will Smith, qui devait revenir dans la suite, bien sûr. Finalement, c'est Gavin O'Connor, donc responsable de Warrior notamment, qui devait s'en occuper et qui a été le plus longtemps pressenti à la réalisation. Et il y a un twist de Justin Kroll, de journaliste à Variety, qui a plus ou moins expliqué pourquoi il s'est barré, et c'est assez amusant. En fait, son pitch pour Suicide Squad 2 était très très similaire à Birds of Prey. Et Birds of Prey a été greenlighté avant Suicide Squad, qui était en développement de elle depuis des années. Du coup, ça l'a un peu fait chier. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est barré faire autre chose, un autre film en fait. Il a eu une autre opportunité et il s'est dit « Non mais je vais pas rester là alors qu'il vient de greenlighter un truc qui ressemble à mon film et qui va se planter. » Et il s'est planté en plus. Donc voilà.
Quelle belle histoire.
Ils ont sorti les rames. Et finalement, commence l'idée de « Et si on reprenait un peu tout de zéro ?» Et si on allait voir un monsieur qui s'est fait virer de Disney à cause de ses tweets déterrés par des gens un peu bizarres, là, à savoir James Gunn, donc il venait de se faire virer après les Gardiens de la Galaxie 2.
Des tweets avec des blagues sur la pédophilie.
À l'époque de Trauma, il faisait des tweets avec des blagues du bon, très noir, quoi, on va dire, avec Lloyd Kaufman, il se l'a envoyé. Lloyd Kaufman qui d'ailleurs fait un cameo dans The Suicide Squad, donc vraiment le doigt d'honneur est haut levé.
C'est vrai que je crois que quand il a été viré, dans les jours qu'on suivit, il était engagé et courtisé par Warner.
Ils ont sauté
genre,
dessus.
Oh, putain,
mais ils ont tellement sauté dessus.
Ça a très bien marché avec Joss Whedon, continue avec quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est ça. Non, mais ils lui ont sauté dessus tellement fort qu'en fait, ils l'ont attrapé et ils lui ont dit « Fais-nous un Superman ». Genre direct, c'est le premier truc qu'ils lui ont dit.
Dès l'époque, c'est drôle.
Et lui, il a dit qu'il savait pas vraiment s'il voulait le faire. C'est ce qu'il a dit dans une interview à Dale of the Geek. Et donc, ils lui ont dit, littéralement, pioche ce que tu veux de notre catalogue. Genre, ce que tu veux. Et c'est dire à quel point le gars était la porte de sortie pour eux, quoi. Et du coup, forcément, enfin, quand t'as vu ses précédents films, la bande de anti-héros qui va se faire flinguer à l'autre bout de la planète pour les intérêts impérialistes... Bon bah lui il a dit banco.
Oui, parce qu'à l'époque il avait fait les Gardiens 1 et 2 et il était dégagé du 3 qu'il avait écrit et qui devait donc théoriquement se faire sans lui après qu'il était dégagé.
Et du coup il s'est lancé dans un Suicide Squad, il a lancé la pré-production, puis bah il a regardé le film de ailleurs parce qu'il l'avait pas vu. Lui ce qui l'intéressait c'était juste la Suicide Squad, tu vois, en soi le concept. D'où peut-être du coup cette scène d'introduction que personnellement je trouve absolument dantesque.
Mais comment rebooter une franchise
Alors lui dit toujours qu'il trouve qu'il y a des choses bien dans la version de ailleurs, et d'ailleurs il a piqué
quelques trucs.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois.
Il a pris trois personnages, il y a Amanda Waller, Harley Quinn et
Rick Flag.
Et Bloodshot est clairement un décalque un peu plus loin de Deadshot.
Et Rick Flag et Harley Quinn ont changé de personnalité entre deux films.
Oui, Harley Quinn, elle est enfin un personnage intéressant.
Il aimait bien Margot Robbie, quoi.
Voilà.
Et du coup, en fait, il a fait une liste liste de héros. En fait, il a pioché tous les méchants qu'il trouvait marrants dans, ouais, dans DC, et il a piqué évidemment les plus ridicules, les plus over the top.
TDK, je suis désolé, c'est le meilleur. Ouais, c'est Nathan Fillion avec ses bras, tu sais, qui peut détacher.
Et
qu'est-ce qui se passe si tu donnes carte blanche à James Gunn avec un budget de quasi 200 millions,
c'est ça, quoi.
C'est ça, quoi.
C'est ça qu'ils ont fait.
Et il fait un bon film.
Ouais.
Et du coup, il a piqué. Alors, il y a la liste des héros qu'il a pas pris, enfin des méchants qu'il a pas pris, est hyper drôle aussi. Mm. Il explique, lui, on a voulu. Et genre, il y en a, ils sont tellement des parodies déjà dans les comic books qu'il a pas voulu les reprendre en tant que parodie. C'est le cas notamment d'un mec qui s'appelle Kite Man et qui est un méchant qui tue les gens en faisant du kite.
Tu sais, il est dans la série Harley Quinn.
J'ai pas vu la série.
La série animée Harley Quinn, bah il est dedans.
Ok.
Jean-Luc, tu vois, il disait, c'est tellement une blague en soi que j'ai pas envie de le mettre dans mon film et en faire une blague.
Le meilleur, c'est Weasel quand même. Hein. Moi, c'est mon préféré du film.
Moi, de toute façon. En fait, je crois que le dernier plus gros éclat de rire que j'ai eu dans un blockbuster en salle, c'est la scène où ils sautent tous et lui, il s'est pas lâché. Et là, t'as Michael Rooker. Mais Michael Rooker, le mec, il est blasé dans la vie. On lui dit, faut que t'ailles le chercher. Et lui, il est tellement saoulé. Genre, vraiment. Je me rappelle avoir vu en projo. Et en vrai, j'y allais en me disant, ça va être sympa, mais je sais pas, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Franchement, je ne savais pas. Je me suis dit, ça va probablement être marrant, mais sans plus. Et vraiment, j'ai eu un éclat de rire que j'ai rarement eu dans une salle de cinéma.
Il y a la scène aussi où Weasel, il lèche la vitre derrière les autres, là, dans la cellule, qui est super drôle.
Ça. Puis franchement, le film est cool aussi parce qu'il a, pour moi, révélé tout le potentiel comique de John Cena,
qui est
parfait en Peacemaker. Enfin, il était né pour ce rôle. Et bah, du coup, la série derrière, je sais que toi, Geoffrey, t'as un peu moins aimé la série Peacemaker.
Ouais, m'a fait chier pour le coup en parlant de trucs interminables. Ça fait une très bonne mini-série de 3-4 épisodes, mais là, il y en a quoi, 6, 8, ressenti 14.
Je sais plus.
Je sais pas moi.
Ah, j'en pouvais plus.
Quoi. Beaucoup fait rire.
Je l'ai regardé étalé, je pense, sur 2 mois, tu vois. Parfois, j'oublie en me disant. Pourtant, j'aime vachement le truc des insectes, aliens, invasion. C'est genre là, il m'a accroché direct, mais après, c'est trop long, quoi. Je trouve ça trop chiant.
Je trouve que c'est pas parfait. Mais c'est très. Ça ressemble beaucoup à Super, je trouve, dans les films de Gunn.
Ouais, mais genre, Super, ça marche très bien parce que.
Super, ça dure une heure et demie. Ouais.
Mais déjà, le schisme idéologique, c'était que Mathieu et moi, on trouvait le générique trop drôle et genre bien foutu. Et toi, il t'a saoulé
dès le début. Bah, en fait, c'est pas que ça me saoule, c'est que. Ça me saoule que ce soit perçu comme un truc super cool par tout le monde et que tout le monde dise applaudisse là-dessus. C'est genre non mais calmez-vous quoi, c'est trop facile de faire ça. Donc oui, c'est amusant.
Il a réussi à trouver les petits moments drôles de chaque personnage. Enfin, l'autre qui sait pas du tout danser, qui ressemble à rien, le petit tech qui fait un petit pas de côté à la fin et tout. C'est des micro détails.
L'aigle qui fait pas de côté à la fin, pour moi, c'est pas possible. Hein.
Moi, ça me fait trop rire. Voilà. Je suis désolée, il se repositionne et tout.
Moi, je trouve que ça va au-delà du générique cool qui est repris par tout le monde parce qu'il est cool. Je trouve que c'est une note d'attention. Tu rentres dans la série et le gars, il te dit dès le générique, en fait, tu vois tous ces héros que tu prends grave au sérieux. Bah, moi, c'est pas le cas. Je vais les faire danser pendant.
Oui, non, mais c'est la même démonstration qui fait que j'aime pas le début des Gardiens 2. Toi, t'aimes bien le fait que. Comment il s'appelle ? Groot, là, l'arbre, il danse et que c'est trop malin parce que la vraie séquence d'action, elle est en flou derrière et tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est étendu sur tellement longtemps que ça devient vraiment. M'as-tu vu ? Et ultra, ultra démonstratif.
C'est plus subtil dans les Gardiens 1 au tout début, celle que j'adore vraiment, et où il arrive. Dans le.
Une espèce de temple détruit.
Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'attends à cette action parce que t'as vu ces films-là 17 fois. Tu sais, tu vois l'action qu'il y a. Et là, il met juste ses écouteurs et il danse.
Je trouvais que c'était plus joli aussi.
Je trouve ça super joli et super révélateur de comment il va traiter ses personnages. Et bon, on peut l'étendre à toute sa filmo. Et donc, à The Suicide Squad, qui est, personnellement, je trouve une réussite.
Bah, de toute façon, pour toi, pour vous deux, c'est le meilleur film du DCU dont on parle maintenant.
Très loin, ouais.
Moi, c'est déjà devenu mon film doudou. Genre, je l'ai déjà revu en entier au moins 6 ou 7 fois.
Oh my god.
Oui, vraiment. C'est film doudou.
Toi, tu l'as revu aussi.
Pas à ce point-là, mais j'attends de choper le.
C'est mon Avatar 2 d'Antoine, tu vois. Genre.
Ok.
Mais c'est tellement une anomalie, en fait, au milieu de tous ces films tout pourris.
Non, mais je suis d'accord pour le côté anomalie. C'est juste qu'à l'époque, moi, je l'ai trouvé bien. Mais quand je vous ai vu bien, c'était genre 4,5, vous. Moi, c'était genre bien 3,5. Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui, quoi.
Il y avait tellement un soulagement de voir enfin un truc intelligent
mais avec du cœur et tout,
ouais, vraiment qui a tout ce qu'il faut à la bonne place, quoi. C'est assez touchant et en même temps c'est complètement barré et il y a des références à l'horreur japonaise et en fait il reste entre le malaise et l'humour et c'est dingue, mais tout ça a réussi à fonctionner sur moi en tout cas. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pas du tout été qui ont pas beaucoup du tout aimé l'humour et c'est vrai qu'il a un humour quand même assez c'est du post-trauma un peu quand même, hein. Et du coup du post-traumatique on pourrait dire. et forcément tout le monde n'y est pas sensible, c'est normal, mais le fait est qu'il creuse aussi loin sa singularité dans un univers de blockbusters qui sont vraiment à ce moment-là, mais tous les mêmes cette année-là. Il me semble, je crois que cette année-là, vraiment, il y avait ce truc qui surnageait au milieu de
2021. Mais oui, non, mais c'est sûr.
De merde, lisse.
Ça sortait du lot, et, c'est sûr.
Putain, ça faisait plaisir, quoi.
Mais ce que je préfère dans le film, je crois, c'est l'intro qui est effectivement très très drôle et la fin avec le kaiju étoile de mer. Et au milieu, je trouve qu'il y a pas mal de trucs où ça s'étire un peu. Mais
bon, c'est ça qu'on disait dans la critique, c'est que ce truc de prendre les cases de BD et les mettre sur un écran, c'est un truc que tout le monde veut faire. Et en général, ça se résume à on prend toutes nos IP, on les met dans un seul plan et oups, il y a tous nos héros.
On met au ralenti et c'est bon.
Voilà, c'est ça. Et je trouve que la scène où Harley Quinn rentre dans l'œil de Starro à la fin, cette côte main incroyable avec des rats qui sautent de partout et tout, là, c'est du Jack Kirby, tu vois. Là, c'est vraiment la culture pop. C'est fou, tu verras ça nulle part ailleurs, c'est complètement barré, c'est complètement janté, c'est juste du plaisir visuel, c'est du gros kiff et c'est pas un alignement d'IP, c'est juste. Du talent artistique, tu vois.
Voilà. Et puis après, même, je trouvais que par rapport au premier Suicide Squad, genre le fait de démystifier un peu le personnage d'Amanda Waller, ce qui n'avait pas trop fonctionné dans le premier, de cette femme, genre super froide et tout, genre là à la fin elle se prend un coup de barreau dans la gueule.
C'est ça, quelqu'un la somme, non ?
Voilà. Et du coup, toutes ces personnes après sont rétrogradées dans Peacemaker justement parce qu'ils l'ont frappé. Pareil avec Bloodsport, la relation qu'il a avec sa fille, genre qu'il se balance des fuck you, fuck you, fuck you, comme ça, contrairement à Will Smith avec sa fille où c'était très nié, très. Voilà, doudou, machin. Enfin, je trouve que bon, on va pas
perverti.
Parler de il pervertit, mais de façon quand même gentiment moqueuse, tous ces petits motifs qui fonctionnaient pas du tout dans Suicide Squad.
C'est pas du post-moderne à la Deadpool, du genre, t'as vu celui-là, il était nul, le mien, il est mieux. Genre,
non,
lui,
c'est sûr que je reconnais allègrement à James Gunn qu'il est malin dans le bon sens et qu'il utilise les figures qui sont là de manière intelligente. Bon, pour rester à l'opposé de ça par son. Passons au film d'après, parce que là aussi, Black Adam qui est sorti donc en 2022, fin 2022, ça, j'ai refait la chronologie, parce que c'est absolument délicieux. Deux jours avant la sortie de Black Adam, Walter Hamada, le boss de DC, quitte DC Film.
La hiérarchie de l'univers DC est en train d'être changée.
Voilà, exactement. Donc oui, ce film a été vendu pendant très longtemps avec Dwayne Johnson, sachant que Dwayne Johnson hésitait sur quel personnage jouer dans les écuries DC. Il hésitait entre Shazam, Black Adam, machin bidule. Il a fini par choisir Black Adam. Ce film a été développé discrètement pendant des années. Ça a changé le cours des choses pour la saga Shazam, puisqu'il aurait dû apparaître plus tôt, peut-être dans le deuxième, enfin voilà, peu importe. Quand ce film arrive, c'est vraiment l'aboutissement, l'accouchement de l'ego de Dwayne Johnson. Donc deux jours avant la sortie, ça change de direction chez DC Film. Quand le film sort, on nous tease à la fin Superman, et très très rapidement le truc est mis sur les réseaux sociaux, puisqu'on reconnecte avec le Henry Cavill Superman qui est abonné absent depuis Justice League avec le Snyder Cut qui arrive. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi Man of Steel 2 n'est pas arrivé? Et bien en fait, il va revenir par la porte de Dwayne Johnson Black Adam, ce qui est quand même assez dingue à l'époque. Ce film qui coûte 200 millions au moins, qui fait à peine 400 millions au box-office, donc c'est quand même pas génial. Et le film, juste après sa sortie, en novembre 2022, on annonce qu'on change complètement la direction de DC Film. C'est Peter Safran et James Gunn qui sont choisis pour remplacer Walter Hamada, qui est arrivé en 2018. Donc là, en fait, on annonce officiellement que tous ces films liés à l'univers étendu, potentiellement, ils sont bons à jeter à la poubelle. Parce que très rapidement, on nous annonce un reboot de l'univers DC et la priorité à Superman Legacy. Dans la foulée, on annonce en décembre 2022 que Henry Cavill est officiellement out du rôle de Superman. Alors ça, quand c'est arrivé chez Écran Large, c'était tellement incroyable. C'est genre, mais comment le timing peut faire que juste après qu'il le fasse revenir après des années de non-retour, il faut qu'il soit dégagé.
Henry Cavill qui du coup quitte The Witcher.
Oui, c'est vrai. Mais c'était vraiment le carambolage, quoi.
Je veux pas savoir ce qui s'est passé dans la tête d'Henry Cavill quand tu lui as dit « Ah, en fait, non ».
C'est dingue, mais vraiment, c'est assez honteux. Tu te dis, si Henry Cavill s'est dit « Ok, j'ai enfin le retour de mon personnage, je vais revenir, je vais affronter Dwayne Johnson. » Et en fait, non, tout ça est annulé. Mais comment ça s'est passé en coulisses? Et est-ce que quelqu'un a choisi de ne pas donner cette information parce que le train était lancé et il fallait juste, on pouvait plus rien faire, quoi.
Dwayne Johnson, personne n'a dû lui dire. Tous ses conseillers, ils ont dit « On lui dit pas, non.
Sachant que Dwayne Johnson se paradait dans la presse en disant que ça avait été un travail de longue haleine, que lui-même avait appelé Henry Cavill, que ça avait été des longues négociations pour le faire revenir dans une scène post-générique toute pourrie qui teasait leur affrontement. Tout ça pour ça.
Surtout que Dwayne Johnson étant Dwayne Johnson et son ego étant son ego, normalement Black Adam c'est l'ennemi dans les comics de Shazam. Et la logique après le film Shazam et le film Black Adam, c'était qu'il tease une rencontre avec Shazam dans la scène post-générique de Black Adam. Sauf que Dwayne Johnson, lui, Ils voulaient pas affronter Shazam,
Zachary Lévy de merde.
Voilà, le petit super-héros que personne connaît.
Le
lui, non.
Shooté au sucre, comme dit Antoine.
Lui, il voulait affronter et potentiellement battre, ouais, Superman pour vraiment s'imposer, voilà, changer la hiérarchie de pouvoir de DC, tout ça, parce que gros ego, si je rentre dans l'univers, ouais, c'est pour faire mal. En fait,
je peux comprendre, tu te dis, quitte à arriver aussi tard, je veux arriver, servir à quelque chose. Donc, franchement, c'est les gens qui lui ont dit oui, qui sont fautifs, quoi. Le mec, il tente pendant des années. Bah, pourquoi quelqu'un lui dit oui? Parce qu'ils y croyaient autant que lui,
c'est
et ils sont tous pris le mur, quoi.
Oui, tu sais pas aux caprices d'un enfant. C'est...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On te dit, tu veux te battre contre Shazam en super-héroïne ou contre Superman. Tu dis Superman, c'est beaucoup plus drôle, non? Surtout si c'est Henry Cavill. Shazam, on s'en bat les couilles, quoi. Donc toujours est-il que cette histoire est assez magnifique. En janvier 2023, quelques mois après la sortie du film Black Adam, le titre officiel de du nouvel univers DC Gods and Monsters est officiellement annoncé. Donc vraiment, on tire un trait sur ce qui s'est passé dans le passé, sachant qu'entre temps il y a toute cette histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que tout le monde a commencé à analyser les chiffres de Black Adam qui n'étaient pas un succès, pour le dire gentiment, et Deadline a sorti un rapport avec des chiffres qui étaient moins catastrophiques, et après c'est sorti qu'en fait c'est Dwayne Johnson et son équipe côté prod qui avait, parce qu'il a produit le film, coproduit le film, qui avait sorti, envoyé ses chiffres à la presse pour que ce soit minimisé l'échec du film. C'est genre, mais qui, on n'a jamais vu ça, quoi.
Aussi, on a pas fait de déclaration en disant non, le film n'est pas du tout un échec et tout, alors que tout est en mode bah si. Genre, il mentait en direct et honteusement, ouais, quoi.
En même temps, faut dire qu'il a tellement forcé sur la promotion. Au bout d'un moment, la promotion du film, c'est Dwayne Johnson qui l'assurait tout seul. Mais après, il y a même un moment où ça a failli fonctionner quand il avait commencé à poster les photos de lui en costume, où justement il te disait que contrairement à Shazam, c'était pas du costume. Oui, rembourré et tout. Ouais, franchement, c'était bâtard. Mais voilà, il l'a utilisé comme argument. Ouais. Et même nous, on se disait, c'est vrai que on a l'habitude de voir des hommes bodybuildés en tant que super-héros, mais là, il y a quand même un curseur qui est poussé à fond. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec la physicalité de ce personnage? Ça peut être intéressant, vraiment. Ça peut être super intéressant. Bon, au final, le film est ce qu'il est. Il ne fait strictement rien du physique hors norme de Dwayne Johnson, puisque bah, il vole, oui, la plupart du temps.
Mais
et
c'est
puis,
vrai,
voilà,
que je trouve que Dwayne Johnson a vraiment bien fait le job,
ouais,
à l'époque,
attends,
parce qu'on a été à la projection qui était en fait une avant-première le mardi soir. Toute l'équipe était là, je crois. On s'était tous réunis comme les Avengers. Quoi. T'étais pas là?
Ouais, vous m'aviez ramené un sachet de popcorn et un laser avec écrit Black Adam. Et même mes chats, ils jouent pas avec. Donc ce film, c'est vraiment un échec de
un laser,
A à Z.
J'avais oublié ce
truc-là. T'as mangé le popcorn que je t'avais donné?
Oui.
Ah.
Merci, c'est important. Mais on est tous sortis du film en se disant... je crois que personne, on s'est pas dit que c'était le pire navet, que c'était assez inutile, inoffensif, mais on avait vachement de mal, je me souviens, à jauger est-ce que ça va marcher ou pas, parce qu'on se disait, notamment avec Alex, en fait ça a tout pour marcher, c'est assez divertissant, il y a beaucoup de... c'est assez un minimum généreux, et c'est, le scénario est tellement simple que tu peux le conseiller à des gens qui voudraient de la baston et des super-héros.
Ah oui, ça roule tout seul le film, hein. C'est une bille dans une pente, quoi. Y a pas d'obstacle, y a rien...
Donc c'est vrai qu'à l'époque, on se disait, bah, peut-être que ça va cartonner, de toute façon on comprend plus rien à ce qui marche ou marche pas. Il se trouve que le film a vraiment pas beaucoup marché, et bon voilà, le fait que tout soit annulé dans la foulée,
C'est pas comme ça qu'on avait titré notre vidéo YouTube sur Black Adam, genre un truc de pourquoi c'est nul mais ça va cartonner quand même.
C'est possible, tu vois, putain,
ah, les Nostradamus
on a
carton.
Le nez creux comme Margot Robbie avec Birds of Prey, quoi. Vivement notre Barbie. Et donc on enchaîne, après on arrive à 2023, donc là comme on le disait, bah là c'est la mort officielle, parce que vraiment début 2023 on te dit le DCU est fini, Superman Legacy arrive en 2025, ces gens là ne vont sûrement pas revenir, il reste 4 putains de films. 4 films en un an.
Dont celui qui était censé complètement rebooter l'univers.
Voilà, puisque au-delà de Shazam 2 qui sert pas à grand chose, mais ça on s'en doutait, Blue Beetle qui sert pas à grand chose, Aquaman 2 qui est quand même censé être, enfin qui est pas censé, qui est la suite de leur plus gros succès et qui s'est vautré lamentablement, mais à la limite tu te dis, bah lui il est aussi victime du concours de circonstances d'arriver après un camion de trucs qui se sont vautrés, un univers qui est fini avec un truc, pas de promotion,
encore
c'est comme s'il avait jeté.
La gestion pourrie de leur suite 5 ans après Aquaman 1, quoi.
Bah ouais,
ça aurait été Marvel, ils pourraient le faire parce qu'ils remplacent avec d'autres IP et l'univers se nourrit lui-même. Ouais. Alors que là, tous les films ils font un peu leur truc de leur côté. Tu sors ta suite 5 ans après le film d'avant, tout le monde l'a oublié, quoi. Et puis Jason Momoa est beaucoup moins hype aujourd'hui qu'à l'époque aussi.
Oui, et quand tu sais qu'en plus le film a été sur le devant de la scène médiatiquement avec une autre histoire qui n'a rien à voir avec les films, avec Johnny Depp et Amber Heard, tu te dis vraiment, c'est comme Ezra Miller, c'est comme Joss Whedon, tu te dis vraiment, ils ont pris les pires personnes, et pas forcément contre elles personnellement, c'est les pires personnes d'un point de vue très cynique de business, de médiatisation. C'est peu importe qui est gentil, qui est méchant et tout ça, c'est juste ces gens-là, ils ont vraiment réuni. Certaines personnes sont des pures ordures, d'autres sont juste liées à des trucs qui n'ont rien à voir avec le cinéma, et au final, la promotion de ces films a été largement occupé par des trucs qui n'ont rien à voir avec les films, quoi.
Oui, parce qu'en plus, c'était que donner mauvaise presse au film, ne serait-ce que de dire qu'il n'y avait aucune alchimie entre Amber Heard et Jason Momoa, que du coup, son rôle, il a été réécrit, puis coupé. Là, tu dis, ok, donc ça veut dire que le script, il a déjà été charcuté dans tous les sens. Et après, on apprend que les premières projections test ont été catastrophiques et que du coup, ils essaient de remettre le film. Oui. Que Batman était censé apparaître, parce qu'on l'avait vu dans des vidéos making-of un peu, tu sais, sur Instagram. Mm. Et qu'en fait, bah non, il n'est pas dans le film, hein, spoiler. Ouais, non,
c'est
un...
Ce rôle dans le film, il est incroyable. Amber Heard.
Moi, j'arrive.
C'est, au début, c'est une poule pondeuse. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait ah, au fait, il a une femme. Elle lui a fait un gosse. Elle disparaît.
Mais oui, et moi, ensuite... je me suis dit, bah, elle est morte. Elle est, ils sont
elle
plus ensemble.
Elle
c'est
pile
pas possible.
Le linge à un moment.
À un moment, elle... après, mais avant qu'elle pile le linge, il y a plusieurs minutes où je me disais, mais il élève seul son fils. C'est pas... Je comprends pas ce qui se passe, quoi.
Elle est dans l'eau en train d'accoucher, puis après, elle est partie, elle s'est noyée.
Et après, le reste du film, en fait, c'est un Deus Ex Machina à chaque scène.
Ouais, c'est vrai.
En fait, c'est comme si. En fait, t'as vraiment l'impression que le... qu'ils ont coupé ça bizarrement parce que. La... C'est comme si elle était là et qu'elle le... elle lui sauvait les miches à la fin de la scène, sauf qu'il n'y a pas la partie où elle se bat avant.
Ouais, ouais.
Du coup, à chaque scène, il se bat, puis tout d'un coup, hop, elle est là, elle le
elle
sauve.
Est trop là
et
pas, elle est pas assez là, c'est très bizarre.
Ouais. C'est très bizarre.
Au début, c'est tellement gênant parce que tu sens qu'ils ne veulent pas la faire parler, ils veulent qu'elle soit là le moins possible. Genre, il y a vraiment cette scène où t'as Arthur qui est en train de gouverner, il est à moitié endormi, elle est juste là à côté, ouais. Elle parle pas, elle fait rien, et heureusement qu'il y a eu Climax parce qu'au début, j'étais en train de compter, je me suis dit, mais attends. C'est-à-dire que Arthur Curry, il se fait plus de fois pisser dans la bouche que Amber Heard a de répliques dans le film. Vraiment, au début, j'ai compté, j'ai fait alors là, il en est à 3 pipis dans la bouche, Amber Heard, elle en est à 2 répliques.
Ah, c'est vraiment fait chier des bras par rapport à la séance.
Je pense à la vidéo à la critique, tu vois, fallait raconter quelque chose.
Il y a l'échelle de notation, le budget de Godzilla Minus One et le nombre de pipis dans la bouche.
Et bon, bah après, il y a Climax, donc du coup, elle parle un peu plus, ouais. Mais.
Non, c'est vrai que c'est fou, surtout que dans le premier film, elle a un des premiers rôles. Et quand James Wan justifie en disant le premier film a toujours été une comédie romantique, le deuxième a toujours été l'histoire, la bromance avec son demi-frère, je trouve que c'est bizarre parce qu'effectivement, c'est pas que. Tu sais, ils auraient pu. Quand elle est blessée dans le film, je me suis dit, bon, en fait, c'est leur manière de l'éjecter. Mais en fait, elle est guérie, donc en fait, après, elle est encore debout. Et donc, en fait, c'est toujours bizarre qu'elle soit pas vraiment là, mais qu'elle arrive pour parer un coup à un moment, qu'elle court avec son gamin à la fin et qu'elle fasse un sourire en arrière-plan.
Mais oui,
c'est
moi
très...
aussi, quand elle a été blessée, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est leur Joker, elle va rester à moitié dans le coma,
con, mais
comme
au moins,
ça,
c'est clair,
et puis il la retrouvera à la fin, elle sera guérie, il fera un bisou, et puis voilà. Et en fait, non, elle est quand même là à la fin, mais genre sans parler, tu sens que bah oui, c'est Mera, elle est surpuissante, on nous l'a montré dans le premier film, donc il faut qu'elle aide de temps en temps, mais c'est jamais vraiment trop dit. Enfin,
non, c'est nul, c'est nul.
Sa gestion est catastrophique.
De toute façon, globalement, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu sur les reshoots, tous les trucs de réécriture, à ce stade, quand le film est sorti, ça a été clairement dit, donc il n'y a pas eu de projection presse, mais ça, à la limite, c'est même pas unique. C'est plutôt que la promo était inexistante, quoi. Il n'y a vraiment que James Wan et Momoa qui ont fait un ou deux événements à la con. Ils ont vraiment, ils s'en foutaient, quoi. Je pense que ce stade, ils avaient compris que de toute façon, le film n'allait pas être un carton.
Oui.
C'était juste une histoire de combien on va perdre. Mais de toute façon, c'est l'équipe d'avant qui va être responsable de ce carnage. Donc, vraiment, tu sens qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi.
Bah, du coup, on en arrive à Bad Girl, qui est le jetage ultime de bébé avec l'eau du bain.
Là, c'est la baignoire avec qu'ils ont jeté.
Attends, parce que du coup, avant d'arriver à Bad Girl, on peut citer tous les trucs un petit peu spéciaux qui sont arrivés dans l'histoire du DCU. Parce que là, on a parlé des films DCU officiels, mais il y a eu des miracles en bien et en pas bien. Parce que quand même, en 2019, donc au moment où il y avait Avengers Endgame et qu'on était en plein DCU, il y a eu le film Joker qui a été fait. Et pareil, alors ça c'est un truc un peu incroyable, ce film a été proposé par Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip en 2016, avec vraiment l'idée de faisons des films à petit budget, l'anti-Marvel, des trucs avec des enjeux moindres, et en 2017 ce film était validé, donc 2017 c'est l'année de Wonder Woman et Justice League, oui. Et ce truc pendant des années il a traîné, Joaquin Phoenix il disait qu'il était pas dedans, il disait mais arrêtez de me parler de ça, il joue vraiment au con, en fait tout est en train de se préparer lentement. Quand le film est sorti c'était un peu en what the fuck avec Scorsese au casting comme producteur, et le film a fait plus d'un milliard au box-office, donc ça c'est comme un Deadpool en fait, c'est des trucs qui ont coûté, ce film a coûté quoi 80-70 millions de dollars pour un milliard au box-office, c'est un truc de rentabilité absolument ahurissant.
C'est le R le plus
il a marqué un record.
Le plus fort,
standing ovation de plusieurs minutes à la Mostra et tout.
Mais c'est ça, a pris un Mostra Oscar du meilleur acteur.
Les gens ont pété un câble, genre, que se passe-t-il?
Mais on peut dire que c'est trop pour certaines personnes, mais en tout cas, c'était un quinté plus, quoi. Ce truc, c'était fou, quoi. C'était l'anomalie absolument ahurissante.
Il suffisait de faire un remake de La Valse des Pantins avec le Joker, quoi. C'était...
Et oui, évidemment, ils ont marketé ça sur la marque DC, mais sans forcément marketer ça comme le grand ennemi de Batman et tout ça. C'était vraiment le projet sur le Joker, un petit truc tortueux des années 80. Ouais. Et puis voilà.
Donc en 2019, ce miracle arrive, et encore une fois, alors Joker 2 arrive cette année, mais à l'époque, je sais qu'on n'arrêtait pas de se demander, mais ils vont continuer, ils vont faire d'autres films comme ça, ils vont faire un truc sur Mr. Freeze, ils vont faire un truc sur le pingouin, ils vont forcément vouloir rentabiliser sur genre la marque DC parallèle. Il se trouve qu'ils l'ont pas encore fait avant Joker 2, mais c'est presque étonnant qu'ils aient pas validé à la va-vite des trucs en disant on fait comme Joker, vas-y, on prend Al Pacino, il va jouer le pingouin, il va faire un film solo sur son origin story, quoi, à la retraite. En 2021, on a donc évidemment le Snyder Cut. Bon, je crois qu'on a tous la flemme de revenir en détail sur toutes les étapes du truc. Il faut juste se dire que le film Justice League est sorti en 2017. Très rapidement, il y a eu le mouvement du Snyder Cut qui a été lancé sur Twitter, qui était gentiment aidé par Zack Snyder lui-même, notamment sur Vero. Et pendant des années, ça a été discuté, confirmé en 2020, sorti en 2021 sur HBO Max. Donc là encore, on peut se dire qu'il y a un miracle de circonstance de HBO Max, le service de streaming à remplir. Du coup, bah ouais, Snyder Cut, c'est pratique.
Oui, parce que, dites-moi si j'ai tort, mais c'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça dans l'industrie. Un blockbuster où du coup, c'est une version de 4 heures qui sort derrière, où on a alloué un budget supplémentaire. C'est
70 millions.
70 millions.
C'est gigantesque. C'est surtout ça qui est sans précédent.
Pour une version de 4 heures, dont un truc en noir et blanc et tout. Enfin, c'est quand même assez inédit.
C'est pas du noir et blanc, si. C'est pas
si, après,
c'est
il a fait une autre. Après, il a fait une autre version en noir et blanc, non?
Je ne me retournais pas vers moi, j'en ai aucune idée. Quoi. Je sais juste que j'ai vu le film à l'époque pour écrire la critique.
De toute façon, si j'ai tort, ça sortira pas d'ici.
Non, c'est
voilà.
Pas en noir et blanc, je me souviens des couleurs dégueulasses à la fin que le Joker.
Non.
Il a dû faire une version.
Le Joker, ça c'est pendant le Nightmare, non?
À la toute fin.
Le sépia, c'est pendant le Nightmare.
Pas pour moi tout le film.
Je sais pas de quoi tu parles. Arrête.
Moi, j'ai quand même envie de croire qu'il existe une version noir et blanc. Voilà.
Bon, écoute, Snyder Cut existe, c'est suffisant, on s'en fout des couleurs qu'il a, quoi. Donc, ouais, ce truc quand même miraculeux, peu importe ce qu'on pense du film, encore une fois, c'est comme tu dis, je pense, je vois pas de truc. Même si un autre film qui aurait pu être sauvé de cette manière, ça n'a pas été fait dans ces conditions, avec un tel mouvement des fans, c'est un truc complètement unique en son genre, pour le meilleur et pour le pire, peu importe, mais c'est un truc absolument dingue. C'est arrivé. Voilà, on y croyait pas, plein de gens n'y croyaient pas, et puis c'est arrivé, et puis voilà, Mathieu a fait la news un mardi soir et c'est arrivé.
Voilà, et depuis que c'est passé, le réseau Vero a fermé ses portes, malheureusement.
En 2022, bon, vous l'avez évoqué, mais il y a la série Peacemaker qui est arrivée, donc pourquoi lui? Pourquoi ça a été validé? Est-ce que, encore une fois, c'est pourquoi un personnage comme ça?
Il dirait, je vais faire une série solo sur Weasel, il aurait dit oui.
Bah, pourquoi il l'a pas fait?
Il avait les clés. Enfin,
ça fait partie des moments où tu te dis, mais comment DC s'est dit, ouais, on va valider ça à côté de tous les trucs validés, lancer ce personnage, très bonne idée, le monde attend une série Peacemaker avant que le film sorte et il va s'évautrer, bah tant pis, on l'a fait quand même. Puis John Cena, enfin, ok, il est connu, mais c'est pas non plus, c'est pas Dwayne Johnson qui fait Black Adam, tu vois. C'est quand même un peu...
Après, la série a quand même pas un énorme budget. Elle a été tournée assez rapidement.
Certes,
donc...
mais elle existe dans un calendrier bordélique. Tu vois, c'est ça qui, je trouve, fou, quoi. Donc ça aussi, encore un truc qui est quand même assez extraordinaire. La même année, en 2022, on a le film The Batman. Donc là, pareil, on reboot tout le truc. Donc pour le coup, ça a marché. C'est un film, en plus, qui est un peu hors des cases parce qu'il est long, il est dark, il est sérieux. Antoine l'a adoré. Donc... Donc il a coûté environ 200 millions de dollars, il a fait plus de 770 millions, donc là c'est quand même un joli succès. Robert Pattinson, la saga à venir, donc là pareil, en 2022 ce truc arrive, et la même année, en 2022, on arrive donc à Batgirl. Mathieu, je sens que tu vas en parler, ça, à chaque fois tu essaies de la caser. Peux-tu nous résumer cette situation à peu près incroyable?
C'est dingue. Donc Batgirl est un film qu'ils ont pensé à partir de Birds of Prey. Enfin, en fait, ils voulaient créer tout un réseau de le Suicide Squad d'univers, un peu, tu sais, avec plein de personnages. Et donc, ils ont fini par se lancer dans Batgirl, qui avait quand même un casting pas dégueulasse. Hein. Donc, Leslie Grace dans le rôle principal. J.K. Simmons, du coup, devait jouer son père et reprendre son rôle.
Alors non, c'était normalement un rôle... C'était le même, mais pas le même personnage.
Ah oui.
Trop compris ce qu'il a dit. Je crois que lui-même n'a pas trop compris ce qu'il a dit.
On pourra jamais vérifier. Brendan Fraser, plein de post-Oscar.
Ah, j'avais oublié que Fraser devait être dedans.
Ouais, Michael Keaton qui revenait en Batman, bien sûr.
Vraiment, lui, tous les trucs où il est revenu en Batman, c'était...
Le tout supervisé par le duo Adil El-Arbi et Bilal Fallah, hein, qui avait fait le dernier Bad Boys, qui avait eu... un succès critique non négligeable.
C'est ça qu'ils ont relancé la saga.
Qui ont fait quelques films qui ont beaucoup fait parler d'eux.
Ouais.
Donc en soi, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. Le tout dans une économie beaucoup plus resserrée, encore une fois, hein, sur à peu près ce qu'on avait dit, des budgets de 80 à 100 millions.
Ouais. Et un du peu coup, comme Shazam, Bardosh Play, quoi.
À la base, il le destinait, donc HBO Max, ouais. Dans cette stratégie-là. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Car avant ce duo de réalisateurs, Joss Whedon était quand même pressenti, hein, il faut le dire.
Ah, j'avais oublié, c'est vrai.
Il s'est fait virer et il a littéralement dit il se fait lure. En fait, il n'arrivait pas à écrire un truc sur Bad Girl. Il l'a littéralement dit. Mais des sources de Hollywood Reporter parlent surtout du problème général dans la production de Warner, de filer un film concrètement sur des femmes à un mec et pas n'importe quel mec, Joss Whedon. Puis ensuite, bah, c'est Christina Hudson, hein, qui était la scénariste de Birds of Prey, qui scénarise aussi ce film-là, qui aurait dû faire la réelle. Et finalement, du coup, on en arrive à ce duo de cinéastes. Donc ce duo de cinéastes, ils sont arrivés sur le projet et ils ont quitté Beverly Hills 4 pour le faire, pour faire spécifiquement Bad Girls. Et c'est un truc qui avait l'air de leur tenir à cœur, tu vois, dans les interviews et tout. Parce qu'en plus, ils parlent français, hein, parce qu'ils sont belges, si je dis pas de bêtises.
Il me semble.
Et donc le film a été pré-produit, il a été quasiment intégralement tourné, et il allait entamer sa post-production quand Warner a décidé de le... On dit le shelved souvent, c'est-à-dire le mettre sur une armoire, une étagère, et ne jamais le revoir. Et on ne le reverra jamais, car ils n'ont pas le droit légalement de le montrer aux gens, ce qui est une aberration conceptuelle totale. Comment tu peux faire un film à 80 millions de dollars et ne pas le montrer aux gens?
Parce que c'est un produit et pas un film.
La raison, c'est que voilà, le budget était 75 millions, il est passé à 90 millions avec le Covid. Et quand Zaslav est arrivé, donc le producteur est arrivé... chez Warner, lui, il a dit non HBO Max, on arrête cette stratégie-là. Et du coup, Bad Girl, c'était un peu un problème parce qu'il a vraiment été conçu pour HBO Max. C'était un peu un téléfilm, en fait. Un téléfilm à 90 millions de dollars, mais un téléfilm quand même. Et du coup, eux, ils ont calculé que en faire un film pour les salles et rajouter encore le marketing en plus de ça, donc ils voulaient faire des rallonges de reshoot pour l'adapter aux salles et en plus donc prendre en compte le marketing, et ça aurait presque doublé le budget et c'était trop pour eux. Et du coup, ils ont calculé que c'était plus rentable de faire ce qu'on appelle un tax write-down, qui est donc une déduction d'impôt. En gros, ils vont pas compter les coûts de production du film dans leur feuille d'imposition. Et ils ont calculé que ça serait plus rentable pour eux. Je suis pas du tout notaire. Si quelqu'un y comprend quelque chose à ce bordel, peut-être qu'un jour fera l'inviter et il nous expliquera plus en détail exactement comment ça se passe, parce que j'ai passé plein de temps sur les fiches Wikipédia obscures.
C'est
très compliqué.
Unique, c'est jamais arrivé.
Après, il y a eu Bibi et Coyote, le film.
Ouais, en fait,
chez Warner aussi, mais il est revendu à quelqu'un, lui, contrairement à
Bad Girl. Scoop 2, par contre, c'est pareil. C'est aussi un
tas.
Il était dans la même.
Surtout avec une marque, avec un univers comme ça, super-héros. Tu vois, c'est vraiment genre l'industrie qui produit le plus de trucs qui sont sortis dans tous les sens, et là il y en a un qui est
donc
jeté.
C'est assez incroyable. Alors, le film est fait. Alors, il manquait les reshoots avec Michael Keaton et les effets spéciaux, ils sont pas faits, c'est pour ça. Et du coup, les réalisateurs l'ont appris au mariage de l'un d'entre eux, je crois.
Oui, oh merde,
mais l'équipe l'a appris comme ça en fait par la presse, ils l'ont appris en même temps que nous, quoi. Putain,
ce qui est incroyable, ça ferait un film en fait. On peut faire un film sur cette affaire. Et dans une interview avec est-ce que c'était Première ? Non, je sais plus du tout avec qui ils faisaient l'interview. Ils sont revenus un peu là-dessus et ils étaient hyper nègres. Ils disent qu'ils sont même allés en salle de montage pour essayer de piquer le truc avant que. Et qu'en fait, ils ont tout. Fermés, quoi. Ils ont tout verrouillé. Ils n'ont plus accès à leur propre film, notamment aux scènes avec Batman, qu'ils étaient très fiers d'avoir tourné. Enfin, t'imagines, tu tournes un film avec Batman, tu veux voir à quoi ça ressemble, et ils ont même pas le droit eux-mêmes de voir leur propre rush. C'est une putain de tragédie. Est-ce que le film aurait été bien ou pas?
Oui.
Peut-être que pas, on s'en fout, mais ils ont sorti Shazam 2, en fait.
T'es sûr que.
Voilà. Donc ouais, aberration conceptuelle totale, mais une date dans l'histoire du capitulage hollywoodien qui est intéressante. Et j'espère vraiment qu'un jour, il y aura des articles, des films ou ce que tu veux qui vont revenir sur cette affaire qui est quand même assez dingue.
Mais il n'y avait pas quand même la Warner qui avait une mauvaise foi et qui s'était cachée derrière les projections thèse qui apparemment auraient été assez catastrophiques.
Plein de versions de ce truc, c'est ça qui est chiant.
Ils ont essayé de plus ou moins noyer le poisson en disant c'est pas à la hauteur, pour être sorti sale, etc.
Non mais ces gens qui ont sorti tous ces films, comme tu dis, on dit ce film-là pour abîmer la marque. Non mais
après avoir greenlighté Blue Beetle 2, Blue Beetle, pardon.
Pourquoi tu parles?
Pas encore Blue Beetle 2. Ouais. Après avoir greenlighté Blue Beetle, mais pourquoi, comment, à quelle
Blue
occasion?
Blue Beetle, qui est un film destiné à HBO Max, qu'ils ont sorti au cinéma.
Salle.
Donc
mais
ça
oui.
n'a aucun sens quand tu regardes le truc de l'extérieur, c'est complètement absurde. Quand on dirait la maison qui rend fou.
Quand tu regardes Blue Beetle, tu dis pas waouh, ça c'est un film fait pour le grand écran.
Demande aussi un téléfilm.
S'il serait sorti, oui, sur HBO Max.
Non mais c'est trop bizarre. En fait, HBO Max a rajouté dans la longue liste des facteurs qui ont rendu cette situation absolument incroyable chez DC parce que ça a été un facteur de plus pour prendre des décisions à la hâte, comme la pandémie, comme la stratégie de SVOD avec le cinéma. En fait, tout ça, c'était des briques de plus pour faire couler le bateau, parce qu'à chaque fois, ça les a amenés à prendre de nouvelles décisions hâtives sur des décisions hâtives qui étaient sur un sol déjà complètement chaotique depuis 5, 6, 10 ans.
Oui, parce que quand HBO Max a débarqué, ils avaient clairement pour ambition de faire le modèle Marvel avec Disney+. Donc on a nos films et on décline tout un univers en série, et c'est de là qu'ils ont vrillé et qu'ils ont annoncé la série Pingouin plus Gotham PD ou je sais plus quoi, là, le truc qui devait être sur le commissariat avec Gordon et tout, qui au final a été abandonné du jour au lendemain, on n'en a plus jamais entendu parler, et maintenant on n'entend plus parler que du Pingouin.
On a rajouté la longue liste des projets qui ont été annoncés.
Ouais, voilà. Mais du coup, ils ont très vite vu la limite du système, hein. Marvel l'a vu aussi en surproduisant des séries, et donc là après ils se sont dit non, en fait on va peut-être plus se recentrer sur le cinéma, et ensuite James Gunn et Peter Safran ont clairement dit que le but était de faire plus de petits univers et de franchises, mais sans avoir un énorme ensemble qui bouffe absolument tout et qui englobe tout, d'avoir des petites franchises.
Alors, avant de passer à la suite justement de ce qui va arriver dans le DCU, un petit bilan. Donc 10 ans et 15 films officiels, 16 si on sépare avec le Snyder Cut. Dans tout ça, on peut compter 8 flops indiscutables, 4 cartons pleins et pas mal de résultats un peu bof. Et je voulais juste reciter, parce qu'à l'époque j'avais fait un article trop chiant à faire sur tout ça, tous les projets de DC qui ont été annoncés plus ou moins officiellement. Je peux citer Man of Steel 2, Gotham City Sirens avec David Ayer qui devait le réaliser à l'époque, New Gods, réalisé par Ava DuVernay, pendant des années on a entendu parler, The Trench, donc la série film dérivée de Aquaman, la série sur les Amazones dérivée de Wonder Woman aussi.
C'est vraiment surréaliste d'entendre ça maintenant.
Des films solo sur Cyborg, Deadshot, le Joker de Jared Leto, Harley et Joker qui devaient avoir un film tous les deux, Deathstroke, Lobo, Booster Gold, Green Lantern et des personnages comme Nightwing et Static Shock. À un moment ou à un autre, quelqu'un a été engagé et officiellement annoncé comme scénariste, acteur ou réalisateur. Tout ça, en l'espace de quelques années, on a fait un article qui était le guide DCI qu'on a jeté, qu'on ne met même plus à jour depuis des années. Tout ça, il y en a plein qui n'ont même pas été annulés officiellement. Ils ont été teasés, annoncés d'une manière un peu bancale à droite à gauche avec un tweet, quelqu'un dans un festival au Comic-Con et laissé à l'abandon. Voilà le bordel du DC. Il n'y a rien, je pense, qui est comparable à ça. Même Marvel a des casseroles et des trucs qui ont été annoncés oubliés, mais pas autant, quoi. Eux, c'est ouf, quoi. C'est vraiment.
Après, ça se trouve, dans 10 ans, il y a des projets dont on parle là qui ressortent.
Il y en a certains qui vont arriver, tu vois. On va parler de la suite, tu vois. Qu'il y en a certains qui reviennent et des noms qui vont être un petit peu familiers.
C'est un peu comme si le Dark Universe, ils avaient continué après la momie. Ouais. Je pense que c'est ce qui se serait passé, en fait. Ouais.
C'est vrai. On peut avoir une minute de silence pour le Dark Universe. Je suis en train de repenser à cette photo magique. Là.
Cette liste là, c'est In Memoriam.
Ouais, c'est trop ça.
Tu sais, cette photo du Dark Universe, c'était un peu le symbole de ces mecs qui prévoyaient 14 trucs à l'avance sur le modèle Marvel et ça devenait ridicule parce que du coup, on n'a jamais vu le.
Mais surtout des gens qui se disent, vas-y, on fait une photo avant quoi que ce soit d'autre, c'est ça qui est le plus important, quoi.
Et d'ici, c'est ça, mais.
Sur 10 ans avec
à l'absurdité la plus radicale
qui change et qui réfléchissent, quoi. Le futur de DC, donc maintenant que le DCU est fini, est mort et enterré avec tout ce carnage de 2023, à l'horizon, qu'est-ce qu'il y a? En 2024, on a Joker Folly à 2 et la série Pingouin qui va arriver un moment ou un autre, qui n'a pas encore de date, avec Colin Farrell. Donc ça aussi, j'ai envie de dire, pourquoi une série Pingouin et pas une série Catwoman ou un truc comme ça? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du Pingouin? Mais
on
bon,
sait que tu
veux
un truc Catwoman, Geoffrey, arrête de pousser là.
Bah non, mais tu vois, mais Pingouin et Colin Farrell, quand même. Bon, peut-être qu'Antoine sera surexcité après tout.
Mais il est déjà surexcité, je pense.
Ah ouais? Voilà. En 2025, on a The Batman 2 et Superman Legacy. Donc Superman Legacy qui est le premier gros blockbuster absolument de folie, de fou pour relancer l'univers. Mais on a aussi d'autres films annoncés. On a The Brave and the Bold, qui est, il me semble, un film Batman et Robin, hein, c'est ça? Je crois. Je vois Déborah qui me regarde, genre, je ne peux pas valider ceci, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un film Supergirl qui a été annoncé, un film Swamp Thing qui a été annoncé, un film The Authority qui a été annoncé. Et il y a des séries qui ont été annoncées. La toute première de cet univers qui est vraiment canon, c'est la série Creature Commando, qui est un espèce de Suicide Squad de monstres avec notamment Amanda Waller qui supervise.
C'est le premier truc que James Gunn a voulu valider quand
il
est
arrivé. Truc officiel, ouais. Il y a une série Arkham, il y a une série sur Amanda Waller, il y a une série sur Green Lantern et une série sur Booster Gold, et oui, qui était dans la liste des projets abandonnés mais annoncés par DC jusque-là.
Donc, et Lobo, non, ça aurait été cool un film sur Lobo.
Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le truc dont on a déjà discuté plein de fois, c'est ils relancent un univers, mais ils font quand même un univers partagé en plusieurs autres univers. Parce qu'il y a donc le DCU, apparemment ça s'appelle comme ça, avec Superman Legacy et la série Arkham, mais l'univers Batman avec Matt Reeves, où il y a The Batman 2 et la série Pingouin. Donc la série Arkham ne serait pas liée, de ce qu'a dit James Gunn, au reste de Batman. Déjà, moi, je suis perdu parce que je me demande pourquoi ils se font chier à relancer un univers pour déjà faire des trucs un petit peu chelous comme ça. Le film Supergirl a été annoncé avant la sortie de The Flash, donc est-ce qu'il comptait remettre Sacha Caillé dedans ou pas ?
Bah, elle est morte.
Bah, il pourrait la faire revenir dans le multivers.
Là, il reboot de toute façon. Donc.
Il est pas mort, le multivers. En même temps, tu me diras, vu la cohérence du truc.
C'est bizarre de se dire, on lance un film Supergirl alors que le film qui est annoncé, qui va sortir, il y a déjà une Supergirl et elle n'était jamais apparue au cinéma depuis les années 80. Je trouve ça très bizarre, encore une fois, de faire ça dans l'esprit du public. Pareil, la communication de James Gunn qui dit non, mais Blue Beetle le reviendra, mais peut-être un variant, mais en fait, il fait des phrases pour expliquer, je comprends même pas ce qu'il veut dire. En fait, il dit, il va revenir, mais c'est une autre version, peut-être que vous allez revoir des acteurs, des actrices qui reviendront jouer le même rôle, mais c'est pas forcément pareil. Merci.
C'est exactement ça, c'est de J.K. Simmons dans Bad Girl, voilà. C'était cette explication-là.
En fait, à quel moment tu te dis, on reboot un univers où c'est le chaos et on comprend rien en termes de communication depuis 10 ans, et qu'est-ce qu'on fait ? Les premières briques sont tout aussi bordéliques, avec des trucs qui déjà entretiennent le doute et les questions. Après, il a vraiment en tête un univers partagé, James Gunn avec Peter Safran, parce qu'il a déjà annoncé que Sean Gunn, donc son frère, c'est son frère Sean Gunn, allait jouer Maxwell Lord, donc le personnage qu'on a vu dans Wonder Woman 2, que tout le monde a détesté, donc il va revenir. Il y a Green Lantern qui sera là, il y a Hawkgirl, il y a Mister Terrifi, donc il y a déjà plein de personnages qui sont annoncés.
C'est vrai que ça, Hawkgirl, du coup, est-ce qu'elle aura un rapport avec le Hawkman de Black Adam ? Enfin, c'est assez chelou quand
ça
même.
Ça rejoint la liste des grandes questions. Donc bon, peut-être qu'on peut, au-delà des films, parler du cas quand même de James Gunn, qui est peut-être le truc le plus intéressant, et je sais pas à quel point... Bon, je crois qu'en gros, toi, Déborah, vu ta tête, t'es pas extrêmement emballé, que toi, tu vois ça plutôt, Mathieu, comme un truc qui est assez stimulant et positif, l'arrivée de James Gunn à cette position comme co-président de DC Films.
C'est pas que je suis pas emballé, parce que j'aime beaucoup la vision de cinéaste de James Gunn, surtout sur les œuvres de culture populaire, je trouve qu'il s'en empare vraiment très bien. C'est plutôt le côté avant, il avait un peu cette étiquette de cinéaste libre à qui on donne carte blanche. Et là, est-ce qu'il va pas juste se retrouver avalé par un système, quelque chose de beaucoup trop gros pour lui, où il devra faire beaucoup trop de compromis, où en fait, il aura plus tellement la vision artistique, mais il se rapprochera plus du côté producteur, qui certes est censé être à Peter Safran, lui est censé plus avoir la casquette créative, mais en fait, j'ai plus l'impression que ça va se fondre et que les enjeux créatifs et artistiques, non, ils vont être noyés. C'est mon côté pessimiste là qui ressort.
Toi, Mathieu, t'es plutôt optimiste, alors, apparemment.
Je peux pas m'empêcher, personnellement, d'être un peu déçu que James Gunn s'enferme là-dedans, ouais. Parce que moi aussi, j'aimerais bien le voir faire d'autres trucs, en fait, parce que j'aime beaucoup en tant que cinéaste. Après, bon, je suis déjà très curieux de voir son Superman, quand même. Ouais. Ça peut être intéressant. Et je pense que stratégiquement, c'était un très beau choix de la part de DC. Il s'enferme plus dans ce truc très sombre, un peu edgy, que représentait Snyder et qui les a un peu rattrapés par la suite. C'est-à-dire qu'ils prennent un réalisateur qui est à la fois très reconnaissable du grand public, qui est apprécié par une bonne partie du public aussi, qui est capable de traiter aussi bien des thématiques relativement matures, dans le sens où il fait des films qui peuvent être pour adultes, on va dire. Pas matures dans le sens très malin, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, il sait faire du cinéma familial. Je veux dire, les Gardiens de la Galaxie, il a prouvé qu'il était capable de faire du vrai cinéma grand public qui s'adresse à un public hyper large, qui brasse vraiment plein de trucs, plein de références, et qui arrive à le mettre dans un truc à énorme budget, très coloré, et qui a une personnalité et il a un style, tu vois. Donc ils ont quand même fait quelque chose qu'ils ont galéré à faire depuis les problèmes qu'il y a eu avec Snyder, c'est-à-dire se trouver un vrai capitaine, un mec qui a une vision et qui va aller probablement jusqu'au bout, du moins au maximum de ce qui peut aller. Après, est-ce que ça va être bien ? Je ne suis pas devin, hein. Mais de leur point de vue, pour moi, c'est peut-être la meilleure chose qu'ils avaient à faire.
Après, c'est vrai que c'est malin parce que James Gunn est un super communicant, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Il a vraiment cette étiquette vachement accessible, en mode vas-y, je lui pose une question en le taguant sur Twitter, il y a une chance qu'il me réponde
en vrai. Il répond aux rumeurs des gens random. Et
donc il a ce côté très grand gamin. Là où Snyder avait tendance, trouve publiquement à se prendre un peu plus au sérieux, lui il a vraiment ce côté un peu grand gamin qui adore s'afficher avec ses comics, qui adore revendiquer le fait qu'il aime les comics et qu'il en lit énormément. Donc je pense que là-dessus, pour le facteur sympathie, ça peut bien fonctionner pour la Warner.
Et je trouve ça très malin d'avoir constitué un binôme. Je pense que l'un des problèmes aussi de filer des clés à Snyder, c'est que il a vu beaucoup par sa vision artistique, et forcément quand les studios ont commencé à émettre des doutes, hein, qui n'est pas forcément fondé, on l'a vu, forcément il a pris la mouche, et je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi. Là où apparemment ils s'entendent très bien les deux.
Mais ils ont bossé notamment ensemble sur Suicide Squad.
Absolument. Du coup, je pense que le fait d'en avoir un qui se focalise vraiment sur un aspect, un sur l'autre, et ils vont devoir en fait se temporiser l'un l'autre.
Ouais.
C'est un peu du management, n'est-ce pas? Tu connais, toi, Geoffrey, ça.
Sentez la pointe de sarcasme.
Et ouais, pourquoi pas? Encore une fois, sur le papier,
oui,
c'est une bonne idée. Mais à la base, le DCU, c'est beaucoup de belles choses sur le papier.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir deux personnes, parce que Kevin Feige, de l'autre côté, qui, bon, peu importe ce qu'on pense de lui, il a réussi à mener un truc absolument ahurissant. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des limites aussi à pouvoir superviser autant de choses, parce qu'il y a un aspect industriel et artistique, peu importe ce qu'on pense des deux facettes. Là, c'est peut-être pas con d'avoir deux personnes qui s'entendent bien, qui forment un binôme et qui vont pouvoir vraiment contrebalancer régulièrement. Surtout que vraiment, James Gunn, encore une fois, peu importe ce qu'on pense de lui, il a une position unique, à part Joss Whedon qui est passé de Marvel à DC, mais pour ce qu'on sait et de manière plus que chaotique, James Gunn a fait des films des deux côtés. Il a fait trois films côté Marvel, un film côté DC pour l'instant. Maintenant, il se retrouve à la tête d'un studio, ce qui est quand même assez incroyable pour un réalisateur comme ça. Et quand tu regardes 2023 côté Marvel, le seul film qui a cartonné, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3, fait par James Gunn. C'est quand même le mec, c'est le roi du pétrole là actuellement.
Qui est aussi un film familial, mais qui encapsule des thématiques hyper sombre,
le bon équilibre, ouais.
Qui est finalement peut-être la formule que cherche un peu DC, quoi.
Et toi, Mathieu, sur Discord, je sais que tu disais que DC excitait autant que sur le site et autant que nous en réunion, et t'as lancé un sondage pour que les gens ils s'écharpent sur DC, non?
Un sondage qui m'a été longuement demandé.
Ah ouais.
En fait, quand j'ai commencé à faire des sondages pour ces réunions,
ouais,
pour qu'on y voit un peu plus clair entre nous, tout de suite on m'a dit: ah, quand il va y avoir DC, ça va être la guerre.
Ah ouais.
Et du coup, je me suis dit allez, c'est le moment. Tant et si bien d'ailleurs que le lancement du sondage a motivé une personne notamment à faire le marathon de la quasi-intégralité de la saga en vocal sur Discord.
Il est encore vivant à l'heure actuelle.
Et commenter la chose, et en terminant par Aquaman 2 en salle.
Oh la vache.
Et à l'heure où je vous parle, il n'est pas en réanimation. Donc a priori, il a passé le test. Voilà, c'est ce qui te tue pas te rend plus fort, hein, finalement. Voilà, big up à lui. Et donc ouais, on arrivait à un petit classement d'ici. Alors j'ai pris les films comme nous on a fait notre classement à l'époque sur notre dossier,
ouais, donc
où j'ai pris aussi Batman et,
ouais,
et tout, à la demande généralisée, parce qu'ils me l'ont demandé, j'ai aussi mis à part Batman vs Superman version longue, parce que beaucoup de gens disent que c'est pas le même film. Voilà, donc premier de très loin, c'est The Batman qui a vraiment éclaté le score à 4 et
Antoine
quelques
sur
5.
Discord ou pas?
Oui, mais
je pense qu'il a créé un mouvement.
Il a
fait
réussi à truquer les votes.
Il a fait boost The Batman en hashtag.
Voilà. Deuxième, The Suicide Squad.
Mm-hmm.
Bon, après, j'ai un peu dit que j'allais être plus dur avec la modération, avec les gens qui mettaient en dessous de 4. Mais c'est pas grave. Joker en troisième.
Mm-hmm.
Batman vs Superman version longue en quatrième. Vu qu'ils l'ont réclamé, je suppose que c'est les gens qui l'aiment particulièrement, ouais, qui l'ont noté. Donc voilà. Cinquième, Man of Steel. Sixième, le Snyder Cut, qui a toujours ses fans sur Internet. Ah bah, sur Internet, les gens.
Ah ouais, non mais... Très bien.
Batman v Superman en 7, Wonder Woman en 8, Aquaman en 9, Birds of Prey en 10, Shazam en 11, Blue Beetle 12, pas si bas, je trouve. Ouais. Aquaman 2 en 13, Black Adam en 14, The Flash 15, Wonder Woman 84 en 16, et les trois derniers sont Justice League, Suicide Squad, et le dernier c'est Shazam 2.
Oh. Oh la haine contre Shazam 2, bordel, c'est fou quoi.
Il est pas si différent du classement qu'on avait fait nous finalement.
Oui. Ouais, non, je pense que c'est pas très loin. Je pense que Man of Steel est plus haut chez nous.
Man of Steel est plus haut.
Ouais. Wonder Woman et
Birds
Wonder Woman 2
sont
un peu plus haut. Ouais. Ouais.
Birds of Prey est plus haut parce que ouais, ouais, on aime bien.
Mais ouais, oui, il y a pas
à
de.
À part ça, bon allez. La toute fin, franchement, en général.
Oui, tout est interchangeable.
Wonder Woman est 84 est plus haut à cause de vous là. Voilà. Donc, merci à eux pour leur participation.
Bah ouais, merde, bon courage, putain la vache, cette personne, il faudra qu'on ait son témoignage pour savoir si psychologiquement
il
y a une cellule de crise.
Il témoigne.
Bon, je vous propose de plus jamais prononcer DCEU à partir de maintenant, ni Aquaman, ni Shazam, ni The Flash, parce qu'on en a un peu ras-le-bol. Pendant au moins 2 mois, on peut essayer de faire ce pari. Sauf que je crois que le coussin Shazam 2 est encore dans le studio, donc on peut... Donc on peut pas parler de tournage ni de studio sans parler du body swap de Wonder Woman sur le coussin.
D'ailleurs, un jour il faudrait dire aux gens que c'est moi qui ai fait ce coussin et que j'en suis super fière.
C'est vrai. D'ailleurs, je me disais,
dans une vidéo,
vu comme les coussins attirent plus de commentaires parfois que ce qu'on dit, peut-être qu'on devrait changer régulièrement les coussins et faire un truc pour que les gens réagissent et peut-être
demander aux gens c'est quel leur coussin préféré.
Et bon, peut-être qu'on pourrait leur demander, comme on peut faire deux faces de coussins, deux images traumatisantes parmi une sélection qu'on leur propose pour vraiment faire le coussin de chaque année. Ça peut être pas mal ça.
Ouais. c'est Judith ou Antoine qui avait proposé qu'on en fasse 6 avec nos tronches dessus à la place de Nicolas Cage.
Enfin, en tout cas, c'est quand même fou que les coussins fassent autant parler. Et si un jour on fait un podcast, comme on dit depuis des années, peut-être qu'on n'aura pas ce problème, parce que je crois qu'en podcast, les gens peuvent que se moquer de mauvais accent anglais et du rhume de Mathieu qui a le nez bouché 9 mois sur 12. Donc en fait, je sais même pas si on fait un podcast si toi tu peux être dedans, parce que je pense que les gens vont trouver ça horrible. Non,
mais là aujourd'hui, c'est un mot de trench, quoi.
Ah, mais bon, si les gens font ça, ça voudra dire que les gens nous écoutent, nous suivent, mettent de bonnes notes sur les applications d'écoute et donc sont contents qu'on ait un podcast. Donc on n'a plus qu'à faire ce foutu podcast un jour. On y croit.
Ouais. On y croit.
Allez.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.